À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, c'est la fête de grands saints dont je vous ai parlé l'an dernier, en particulier Augustin de Canterbury, le fondateur, si on peut dire, de l'Église catholique anglaise, et Bède le Vénérable, si c'est un Bède le Vénérable, un moine, un docteur de l'Église. Je les réserve pour des années prochaines, car je crois très important de vous parler aujourd'hui d'un grand marabout musulman, Abdelkader. Monsieur Barbin, ce matin, s'est étonné que je parle de lui, mais c'est très important. Quand on voit l'en-tête du Devoir de vendredi dernier, le 24 mai, que Paris demande à tous les Français de quitter l'Algérie, à la suite du meurtre terrible survenu mardi dernier, de 7 moines trappistes qui avaient été enlevés il y a 2 mois. Or, Abdelkader a été un homme qui a été fidèle à sa religion, mais qui a beaucoup aidé les chrétiens, particulièrement en Syrie. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Abdelkader pourrait être comparé, toute proportion gardée, à Sainte Jeanne d'Arc, dont nous allons fêter la sainteté et l'héroïsme jeudi prochain. Je vous consacrerai toute l'émission à Sainte Jeanne d'Arc, qui a été, ne l'oublions pas, une jeune guerrière, une mystique et une grande sainte. Quelqu'un qui a été appelé, comme elle le disait, à chasser les Anglais du territoire français et à rétablir l'autorité française sur les territoires qui avaient été conquis. Et il en est de même pour Abdelkader. Tout jeune, il a désiré libérer son pays, l'Algérie, de la présence française. Je dis bien toute proportion gardée, n'est-ce pas? Alors, je pourrais vous donner une idée rapide de qui est Abdelkader, n'est-ce pas? C'est une figure héroïque de l'Algérie. Il a laissé Abdelkader, ça s'écrit Abdelkader, là, A majuscule B D, Abd. El Kader, c'est un petit E, L, trait d'union, K majuscule A D E R, K A D E R, Abdelkader. Il a laissé l'image d'un guerrier, d'accord? Oh, il a combattu la France pendant 17 ans, je crois, mais aussi d'un grand politique. Et c'était bien malgré lui qu'il a fait ça, car c'était un mystique lettré qui a été entraîné dans cette espèce de série d'événements, mais qui est resté parfaitement fidèle à sa vocation d'homme de foi. Comme Jeanne d'Arc, toute proportion gardée toujours. C'était un grand homme qui a les gens, des gens qui l'honorent, qui le vénèrent, mais il y a beaucoup de détracteurs aussi. Mais ce sont surtout les gens qui l'admirent qui m'intéressent. Parce que dans ce grand courant de lutte qu'il y a actuellement entre de grandes religions comme certaines portions de l'islam qui s'opposent au christianisme, comme au Soudan ou ailleurs, eh bien, il faut rappeler qu'il y a eu dans l'histoire, et qu'il y a toujours dans l'histoire, des gens de part et d'autre dans les grandes religions qui sont animés par un instinct, un élan, une conviction mystique du grand amour du Créateur unique de tout cet univers et de chacun d'entre nous, et qui nous rassemble et qui veut que nous nous aimions les uns les autres, comme le témoigne admirablement le pape actuel Jean-Paul II, qui a su recevoir chez lui des gens de différentes religions et se montrer si tendre et si affectueux à leur égard. Ce qui frappe d'ailleurs dans le cas d'Abdelkader, c'est une absence vraiment significative de dénigrement ou d'accusation caractérisée à son sujet, ou à propos de son action. Il n'y a personne qui vraiment s'oppose à son action, parce qu'il y avait chez lui une grande simplicité, une austérité, puis une humilité profonde, qui ont imprégné chacun de ses faits et gestes. Et tout ça, ça permet une grande unanimité d'admiration à son égard. Cet homme, on retrouve dans ses traits ce qu'il y a de plus profond chez les grands hommes. Il ressemblait peut-être à tous les hommes dans le sens qu'il était semblable à tous les hommes dans ce qu'ils ont de plus humain, écrit Slimane Zeghidour, dont je m'inspire beaucoup pour vous parler aujourd'hui d'Abdelkader. Il a combattu pour une cause particulière au nom de valeurs générales, et en lui se fonde pour l'Algérie un héros national, mais pour tous les hommes, un propagateur de l'universalisme. Excusez-moi, je vais revenir. Je m'excuse de vous m'être absenté quelques instants. C'est que c'est très difficile de parler quand des gens crient à la porte. C'est intolérable. Excusez-moi. Alors, Abdelkader était grandement honoré en 1966 à Alger. Les Algériens se sont réunis sous les cyprès, puis le soleil, face à la mer dans ce beau pays, au cimetière d'Al-Aliya, qui veut dire l'Alti, c'est-à-dire un cimetière qui est élevé, n'est-ce pas? Et il y avait une foule recueillie. Ils étaient très heureux, les Algériens, mais aussi il y avait des gens qui venaient de l'étranger, de nombreux pays, des délégations civiles, religieuses, catholiques, et de nombreux pays. Il y avait des militaires qui ont assisté à la mise en terre natale, très solennelle, des cendres d'Abdelkader. Elles avaient été exhumées de sa sépulture à Damas, où il est décédé en Syrie. Il avait été exilé par les Français. Et ces cendres ont été rapatriées officiellement par l'Algérie, et qui était devenue indépendante depuis le 5 juillet 1962, donc 4 ans plus tôt. Alors, ça faisait 132 ans, jour pour jour, après la prise d'Alger par un corps expéditionnaire français. S'était emparé d'Alger, puis de l'Algérie, en avait fait un territoire français. Et vous vous souvenez de cette guerre terrible qui a eu lieu il y a plusieurs dizaines d'années, puis je me souviens bien au début des années 60, pour la libération de ce pays qui voulait vraiment être lui-même. Mais Abdelkader a vécu il y a beaucoup plus longtemps, au début du 19e siècle. Pour la conscience de l'Algérie, qui se trouvait enfin indépendante depuis le 5 juillet 1962, Abdelkader faisait figure, et fait toujours figure naturellement, de grand précurseur du nationalisme et de père fondateur de cette nation algérienne. Il a été l'initiateur de l'indépendance, puis pourtant c'est un grand mystique, je vous le rappelle, un grand croyant profond. Et il appartient à l'Algérie dans ce sens-là. Pourtant, il a reçu le titre de sultan des Arabes et de commandeur des croyants très très jeune. Et ainsi, il appartient au grand monde arabe et à l'islam. Mais par contre, c'est un chef politique qui appartient à son siècle. D'accord. Mais Abdelkader, pour moi, est d'abord un homme, un poète, un philosophe, un passionné, mais sans illusion, là, d'un monde où doit se conjuguer dans une grande harmonie tous les peuples, toutes les cultures, toutes les religions. Il rêvait vraiment d'une grande harmonie profonde. Et tout ça, ça concerne l'humanité, un homme comme ça. Hein. Il nous concerne, Abdelkader. Hein. C'est vraiment un des personnages les plus intéressants de l'histoire du monde arabe. Il a été un excellent écrivain, éclairé. Il a été un guerrier, on pourrait dire parfois aveugle. Il n'est pas à la hauteur de Jeanne d'Arc, c'est sûr. Mais on peut dire qu'il a été excellent, autant dans la poésie rimée arabe, là, que dans les textes superbes où il essaie de faire appel à la résistance armée. Mais il n'est pas cruel, loin de là. Hein. C'est un musulman impeccable. Il a eu parmi ses plus intimes compagnons, d'ailleurs, un juif et un chrétien aussi. Oui, tout près de lui. Hein. Il a élaboré avec avec beaucoup d'intelligence, des méthodes de guérilla et aussi une philosophie humaniste. Il a voulu concilier son idéal national algérien avec une vision universaliste. Abdelkader, c'est ce grand combattant célèbre qui a passé la majeure partie de sa vie pourtant à méditer, bien oui, comme un moine, et à commenter les grands mystiques de l'islam, et à prêcher cette grande coexistence dans la liberté avec ses anciens ennemis, au point que les Français l'ont honoré. L'Église l'a honoré, le pape l'a honoré. Cet adversaire de la France a d'ailleurs vécu honoré, puis même pensionné par elle. La France lui a versé une pension, parce que c'était un croyant irréprochable qui a prié dans les églises catholiques. Et s'il a été un grand amoureux de son sol natal, de l'Algérie, eh bien, il a beaucoup pleuré car il est mort en Syrie, où il a pris avec vigueur la défense des chrétiens qui risquaient d'être massacrés par de ces coreligionnaires qui ne comprenaient pas son point de vue. Il dit que c'est pas lui qui a fait les événements. Ce sont les événements qui l'ont fait, en somme, qui l'ont rendu guerrier. Il écrit ça après son entrée dans la paix, quand toute la paix était signée, puis il a dû baisser les armes. Il dit, je n'ai pas fait les événements, ce sont eux qui m'ont fait. Il semblait vouloir dire par là que la vie des hommes finit parfois, hein, ça arrive à tout le monde, ça, la vie des hommes finit par épouser, si on peut dire, une forme que le destin fabrique. Et tout ça, ils deviennent ainsi leur propre histoire, les hommes. Ça arrive très souvent. Hein. Jusqu'à quel point notre volonté s'exerce-t-elle? C'est toujours grandement discuté dans des livres extrêmement intéressants. D'ailleurs, je vous parlais de ses écrits, de ce qu'il a écrit. Ses écrits spirituels ont été présentés et traduits de l'arabe par quelqu'un que j'ai rencontré ici à Montréal, Michel Shoshkiewicz, un Polonais qui est devenu musulman et qui était directeur des éditions du Seuil, les grandes éditions du Seuil qui ont publié tant d'ouvrages chrétiens, même sous sa juridiction. Il m'avait dédicacé ce livre ici à Montréal, qui s'intitule « Émir Abdelkader, écrit spirituel au Seuil ». On s'est paru il y a déjà plusieurs années. Il m'avait remis ça en 1983, je crois, 82-83. Il n'avait pas daté sa dédicace. C'est un livre extrêmement intéressant, dans lequel on peut lire des textes admirables comme celui-ci. Je suis Dieu. Je suis créature. Je suis Seigneur. Je suis serviteur. Je suis le trône et la natte qu'on piétine. Je suis l'enfer et je suis l'éternité bienheureuse. Je suis l'eau, je suis le feu. Je suis l'air et la terre. Je suis le combien et le comment. Je suis la présence et l'absence. Je suis l'essence et l'attribut. Je suis la proximité et l'éloignement. Tout être est mon être. Je suis le seul, je suis l'unique. Mais encore faut-il comprendre le sens profond de ces grands élans mystiques qui rejoignent les grands élans mystiques de nos plus grands mystiques comme ceux dont je vous ai déjà parlé, n'est-ce pas? Le premier acte des événements qui vont changer la vie d'Abdelkader se déroule à Alger le 30 avril 1827. Il y avait là le régent turc, là, qu'on appelait le D, D-E-I, grec, D-E-Y, Hussein. Alors lui, il convoque le consul de France parce qu'il veut protester encore une fois contre le retard que le gouvernement français met à payer ses dettes qu'il avait contractées à la suite d'une livraison de blé algérois 30 ans plus tôt à Paris en 1798. 30 ans plus tôt, ils n'avaient pas encore payé. C'était l'année où Bonaparte, 1798, avait envahi l'Égypte et la Palestine, hein, vous vous souvenez. Alors, le français tergiverse, il ne veut pas payer. Alors le dé, le régent turc, parce qu'il y avait l'Empire ottoman dans ce temps-là, l'Empire turc, c'était les Turcs qui dominaient. Hein. Alors il était en colère, il a répondu par des erreurs, puis il a finalement pris son chasse-mouche. Un chasse-mouche, c'est une espèce de bout de bois qu'on tient à la main et au bout duquel il y a souvent comme une queue de cheval ou quelque chose comme ça. Et puis, avec ça, on chasse les mouches autour de sa figure. Hein. J'en ai un chez moi, c'est très sympathique. C'est un objet comme ça. Mais ces gens-là s'en servaient continuellement. Alors, il a frappé avec son chasse-mouche le français, imaginez. Alors, le sort en était jeté. Et puis, c'était des insultes. Ça ressemblait aux insultes des gouverneurs chinois, là, qui, quand les Chinois ont insulté des officiers britanniques. Alors, ce coup de chasse-mouche est devenu ce qu'on appelle le soufflet d'Alger. Et ça, ben, ça a entraîné une guerre. Bien oui, une guerre pour un coup de chasse-mouche. Alors, ça a été le prétexte, au fond, parce que si cette scène-là s'est passée à Alger, il faut dire que dans toute la Méditerranée, il y avait deux pays qui se battaient là-dedans. C'était la France et l'Angleterre. La France et l'Angleterre cherchaient à posséder encore, là, des pays différents, ou les mêmes pays. Alors, l'argument du drame, c'était justement cette question de ce qu'on appelle la question d'Orient, ou du Proche-Orient, si vous préférez. Et l'objectif, c'était de dépecer tout cet immense empire ottoman, l'empire des Turcs, parce que l'empire turc était en train de crouler, et les Français et les Anglais avaient les yeux là-dessus. Bon, il y avait peut-être pas encore le pétrole, mais il y avait beaucoup d'autres choses qu'on désirait. C'est les richesses hein, qui appelaient les Français et les Anglais en grande partie. Alors, il fallait regrouper tous les gens là-dedans qui pouvaient pencher d'un côté ou de l'autre. Alors, on essayait de convaincre les Arabes des différents pays à se ranger du côté des Anglais, du côté des Français. Alors, le moyen, c'était d'exploiter les difficultés qu'avaient les minorités ethniques, là, les Arabes, les Arméniens, puis les minorités religieuses aussi, la minorité chrétienne, la minorité juive, la minorité chiite, qui est une branche de l'islam, hein, la minorité druze, qui est encore une plus petite minorité. J'avais déjà interviewé le grand chef des druzes pour l'émission Rencontre à la télévision de Radio-Canada. J'avais fait ça chez lui à Beyrouth, au Liban. Alors, il s'agissait pour ces grands pays-là, la France et l'Angleterre, de cristalliser, si on peut dire, toutes ces dissidences, toutes ces oppositions. Et le 14 juin 1830, donc, il y a des troupes françaises qui sont débarquées à Sidi Fretch. C'est juste à l'ouest d'Alger, ça. Et puis, leur but, ben, c'était rendre les Arabes maîtres indépendants de leur sol natal. C'est ce qu'ils voulaient faire. Et les troupes ont le soutien de toutes les puissances européennes, à l'exception, notable, de la Grande-Bretagne, qui ne veut pas que les Arabes soient libres. Et trois semaines plus tard, ben, le dé Hussein, le Turc, abdique. Il s'en retourne à Constantinople, en Turquie. Le roi Charles X, le roi français, qui est aux prises avec toutes sortes d'émeutes et de la rivalité des Anglais, alors il décide de camper sur sa possession algéroise. Car au fond, les Français temporise, mais c'est pour mieux posséder l'Algérie. Et les Arabes se soulèvent contre les Turcs, contre les Dey, le D-E-Y-S, les Dey, Turcs, qui battent en retraite. Et puis, ils se rapprochent des Français. Alors, à Oran, qui est une ville très importante d'Algérie, la foule prend d'assaut les casernes des soldats d'élite turcs, les janissaires, comme on les appelle. Puis, ils pourchassent même leurs auxiliaires. Alors, finalement, certaines régions d'Alger, là, les clans urbains, ou les clans dans la campagne aussi, les semi-nomades aussi, qui sont affranchis, enfin, de l'oppression ottomane, l'oppression turque, bien, ils entrent en lutte d'influence, eux autres. Là, il y a une anarchie, et puis là, comment faire pour rétablir la paix au Maroc, en Tunisie, puis bien sûr, dans les sections qui appartiennent déjà à la France. Alors, les remous affectent les tribus. Tout ça, ça devient extrêmement dangereux. Et un large consensus se fait autour d'un jeune homme. Ce jeune homme, vous le devinez évidemment, il a 24 ans, il s'appelle Abdelkader. C'est le fils de Moïadine, un vénérable marabout qui est issu d'une famille de la lignée d'Al-Hassan, le petit-fils du prophète Mohammed, Mahomet. Alors, il est donc prétendument en ligne directe, si on peut dire, avec le prophète Mohammed. Abdelkader est proclamé à 24 ans sultan des Arabes et commandeur, ou émir, si vous voulez, des croyants. C'est le 21 novembre 1832. Il a 24 ans. Alors, l'émir Abdelkader, qui est né à Gatna, non loin de la ville de Mascara, rien à voir avec le mascara que les femmes utilisent. Ça vient de Ma'askar, qui veut dire la mère des soldats. Alors, donc, il est né là en 1808, l'année où la France a annexé l'Espagne et le Portugal à ce grand système continental de l'empereur Napoléon. Il y passe une enfance. On voit que la France avait un empire. Elle avait des soucis plus ou moins étranges à nos yeux d'aujourd'hui. Alors, il y passe dans son village une enfance ordinaire où il reçoit quand même une belle instruction. Il s'exerce aussi à la chasse. Puis, comme il appartient à la confrérie et des Kadiria, il s'initie à la politique. Et vers 1822, à 14 ans seulement, il est rendu dans la région d'Oran, à Arzou, où il complète sa connaissance sérieuse du Coran. À 14 ans, il étudie le Coran sérieusement. Je vous rappelle, c'est le grand livre, un peu comme nous, la Bible. Eh bien, le Coran, c'est le grand livre des musulmans. Alors, il s'initie sérieusement aussi aux mathématiques, à l'astronomie, à la géographie. Puis, il observe avec beaucoup de dégoût la malhonnêteté des soldats d'élite dont je vous ai parlé tout à l'heure, les janissaires turcs qui sont encore là à ce moment-là quand il est jeune, et ça le dégoûte. Il trouve que ces musulmans ne sont pas honnêtes. Ça le blesse dans sa foi. Puis, il s'initie à la politique internationale. Il est accompagné de son père, ce grand marabout. Puis, un marabout, c'est un sage, une espèce de d'homme religieux profond. Il entreprend en 1827, il a 15 ans, un long voyage. Il va à Tunis, à Alexandrie, au Caire. Et puis, avec son père, ils sont reçus par le héros du jour, qui est Mehmet Ali. C'est ce Mehmet Ali qui, avec le concours de la France, là, puis la rage des Turcs, ou les Ottomans, qui modernise une Égypte qui est assez autonome politiquement à ce moment-là. Parce que la France désire toujours moderniser, au fond, et libérer un peu ses peuples. Elle n'a pas que des instincts pervers, la France, loin de là. Beaucoup, beaucoup de Français ont rendu d'énormes services aux pays arabes. Abdelkader fait à ce moment-là aussi le grand pèlerinage à la Mecque, comme tout bon musulman se doit de le faire. Il se rend à Médine aussi, puis à Bagdad. Et enfin, il revient dans son pays, le cœur gros, parce que là, il voit que le monde musulman est livré à l'incompétence, puis aux ambitions des puissances européennes, et surtout l'incompétence de l'Empire turc. Rappelons-nous que cet homme qui rêve de libérer son peuple a écrit des choses, je vous assure, magnifiques, comme ce texte sur le pur amour. « Dieu a dit à l'un de ses serviteurs, « Prétends-tu m'aimer? Si tel est le cas, sache que ton amour pour moi est seulement une conséquence de mon amour pour toi. Tu aimes celui qui est. » N'est-ce pas? Ça rappelle beaucoup, hein? Les déclarations de Dieu dans l'Ancien Testament, « Je suis celui qui suis », et Jésus s'est attribué ces mêmes phrases. Alors, donc, dans le texte d'Abdelkader, on voit Dieu qui dit « Tu aimes celui qui est, mais je t'ai aimé, moi, alors que tu n'étais pas. » Il lui dit ensuite « Prétends-tu que tu cherches à t'approcher de moi et à te perdre en moi? Mais je te cherche, moi, bien plus que tu ne me cherches. Je t'ai cherché afin que tu sois en ma présence, sans nul intermédiaire. Le jour où j'ai dit, ne suis-je pas votre Seigneur ? » C'est dans le Coran, ça, dans la sourate numéro 7, au verset 172. « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» On a ça dans la Bible. « Puis, tu m'as oublié, et je t'ai cherché de nouveau, en envoyant vers toi mes envoyés, lorsque tu as eu un corps. Tout cela était amour de toi et non pour moi. » Il lui dit encore, « Que penses-tu que tu ferais si alors que tu te trouvais dans un état extrême de faim, de soif et d'épuisement, je t'appelais à moi, tout en t'offrant mon paradis avec ses houris, ses palais, ses fleuves, ses fruits, ses pages, ses chansons, après t'avoir prévenu qu'auprès de moi, tu ne trouverais rien de cela ?» Le serviteur répondit, « Je me réfugierai en toi, contre toi. » C'est bien ça, un grand croyant musulman, et un grand croyant chrétien ou juif, ou n'importe quel grand croyant, veut se réfugier en Dieu et contre le cœur de Dieu. Alors notre jeune émir Abdelkader, 24 ans, qui est proclamé donc émir, il tient à affirmer à ses partisans qu'il n'accepte sa charge que, dit-il, pour avoir le droit de marcher le premier, il ne veut pas se mettre à l'arrière, et de vous conduire dans les combats de Dieu. C'est une espèce de combat sacré, un peu comme la guerre qu'a menée contre les Anglais Jeanne d'Arc. C'est un intellectuel. Il se découvre tout à coup homme d'action. Il ne veut pas se trahir sur le plan de sa pensée, de sa réflexion spirituelle. Alors, il attaque sans déclaration de guerre quand même. Et puis, les Français auraient voulu une pacification et lui, il n'en veut pas. Et le général Desmichel, c'est son nom, le général Desmichel, c'est un homme de culture aussi, c'est un observateur avisé du terrain. Il rêve de faire d'Abdelkader un second Mehmet Ali, comme celui dont je vous ai parlé tout à l'heure en Égypte, n'est-ce pas, qui a essayé de transformer l'Égypte pour la moderniser, songe à répudier le califat de Constantinople, là. Et puis il voudrait que Abdelkader s'allie à la France. Et dans ce but, bien, il conclut avec Abdelkader un traité désavantageux pour celui-ci, parce qu'il lui concède les trois quarts du territoire qu'il convoite quand même. Alors, c'est dans une situation assez... Il veut lui faire baisser les armes et peut-être pour mieux conquérir définitivement l'Algérie. Mais toutefois, le sultan des Arabes, Abdelkader, qui se paie pas de mots, lui, puis ni de quoi que ce soit, il sait que ses chances de victoire totale sont faibles. Alors, il entreprend de consolider son pouvoir. Il parcourt le pays, l'Algérie. Il impose quelquefois, par la force, son autorité aux contrées réticentes. Il jette les bases d'un véritable État. Il divise le territoire en provinces, des départements, des communes. Il érige des pouvoirs hiérarchiques, dont l'autorité partagée habilement entre l'aristocratie religieuse et militaire, puis les gens très saints. L'administration élue perçoit un impôt selon le Coran. L'administration rend la justice, pourvoit l'enseignement, veille à la bonne marche de l'agriculture et de l'artisanat. Tout ça, ça semble fonctionner. Et puis, les choses, il établit des relations diplomatiques avec différents pays, l'Espagne, l'Angleterre, l'Égypte et la France. auprès de laquelle il a un Algérien juif, Yehuda Ben Dran, qui représente Abdelkader à Alger. Alors, c'est un État théocratique fondé par et pour l'islam. Ça fait penser, n'est-ce pas, au Front islamique du salut dans un sens, mais c'est pas la même chose. Pas la même chose. Il établit dans sa capitale à Tagdempt. Et puis, Abdelkader, donc, ambitionne d'y rassembler une grande bibliothèque islamique. Oui, une très grande bibliothèque, très importante. Puis, il acquiert, dans ce but-là, des manuscrits arabes uniques que les Français vont brûler. C'est terrible. Alors, tout ça, ça inquiète les Français. Et puis là, ils ont beau avoir signé un traité, ils passent outre. Ils entrent en conflit larvé là, avec Abdelkader. Il y a des échauffourées, des escarmouches. C'est la guerre. Et pour l'émir Abdelkader, qui n'a pas encore la trentaine, entrer en guerre contre la plus grande armée du monde, qui a 100 000 hommes aguerris, la France, ça constitue un baptême du feu, une mise à l'épreuve de son état et de ses hommes. Hein. Il va faire appel à toutes ses ressources spirituelles, physiques, morales et intellectuelles. Alors, les occupants français infligent toutes sortes de revers à notre Abdelkader, qui est le commandeur des croyants. Ils incendient ses places fortes, Mascara, où il est né. Ça, ils incendient ça en 1835. Ils occupent ses villes. Tlemcen, ça vous rappelle peut-être Charles de Foucault, hein, en 1836. Ils démoralisent les Français de nombreux clans qui finissent par se rallier à eux, aux Français. Alors, battu, mais nullement abattu, l'émir Abdelkader sillonne le pays, il réconforte, il prêche la guerre sainte, puis il unifie les tribus qui sont rivales, puis il organise la résistance. Et comme il n'y a pas de moyens pour pratiquer vraiment sa politique, il veut non pas nécessairement frapper fort, il veut faire de la guérilla. Alors, les coups qu'il porte à ses adversaires français sont assez sévères. Pour mener le roi Louis-Philippe, finalement, à conclure avec lui en 1837 le fameux traité de la Tafna. Ça va sceller la reconnaissance par la France du pouvoir d'Abdelkader. Et provisoirement, parce que cette pacification, bien, les Français passent à la guerre d'usure. Ils reviennent, ils attaquent encore. Puis l'émir, finalement, prend sa plume à l'adresse de Louis-Philippe, le roi Philippe. Il écrit un texte étonnant et fameux. Écoutez bien ça. C'est là qu'on voit la grandeur d'Abdelkader. Il dit au roi Louis-Philippe de France, « Si tu veux la paix, nos deux pays n'en feront plus qu'un. Les deux peuples se mêleront chaque jour davantage et tu auras la gloire d'avoir introduit dans nos contrées, sans effusion de sang, cette civilisation dont les chrétiens se sont rendus les apôtres. » C'est étrange, hein? Alors, aucune réponse, il ne reçoit aucune réponse. Abdelkader a envahi alors la plaine de la Mitidja en 1839, l'année où les Anglais s'emparent au Yémen de Aden. Et sa campagne donne lieu à plus des combats. C'est un officier français qui écrit ça, il dit « Les combats sont tellement furieux que les têtes humaines volent comme des hannetons. » Alors, l'ère des traités est close, puis il y a une guerre de conquête. Guerre de libération, ça n'en finit plus. Et pour compenser son recul face à l'Angleterre, qui a freiné l'expansion de Mehmet Ali en Syrie-Palestine, la France a décidé d'annexer le pays qu'elle a déjà baptisé l'Algérie. Et voilà, ça y est. Et l'entreprise est confiée à un général qui s'appelle Bugeaud, qui est doué de pouvoirs spéciaux. Et puis, Abdelkader fait une guerre mobile et finalement, eh bien, il y a la tactique de la terre brûlée, elle porte ses fruits. Alors, sur leur lancée, bien, les Français occupent les villes principales, ils s'attaquent à l'agriculture et à l'artisanat. C'est une guerre terrible. Et le 16 mai 1843, bien, le duc d'Aumale surprend la capitale ambulante de l'émir Abdelkader. Et puis là, bien, il assaille cette capitale ambulante et ses troupes la pillent. Puis là, les précieux manuscrits d'Abdelkader sont brûlés. Des écrits mystiques, des écrits extraordinaires. Alors Abdelkader est pourchassé par les occupants français. Il est en butte à l'hostilité vénale de plusieurs clans qui préfèrent vendre leur puissance. Il est persécuté par le sultan du Maroc, qui est allié, lui, à la France. Alors le commandeur des croyants qu'on appelle, c'est Victor Hugo qui l'appelle comme ça, le beau soldat, le beau prêtre, eh bien, il se rend au duc d'Aumale. Le 23 décembre 1847, après 17 années d'une résistance solide, il a combattu longtemps pour son pays, mais il a perdu. Alors, il aurait donné à l'Algérie, écrit le maréchal Soult, S-O-U-L-T, un maréchal français qui écrit ça. Abdelkader aura donné à l'Algérie et à sa population une sorte d'unité nationale et une première forme à l'organisation de la justice et de l'enseignement. C'est un grand hommage, comme vous voyez, déjà au moment où les Français gagnent, cet amiral, ce maréchal reconnaît. Alors, ils ont conclu des accords, mais c'était violé. Alors, il le transfère, au lieu de le transférer à Alexandrie ou à Saint-Jean d'Acre, eh bien, l'émir Abdelkader est interné à Pau. J'ai une petite assiette chez moi qui appartenait justement au roi Louis-Philippe, et puis c'est peint, le château de Pau où il a été enfermé. C'est un de ses beaux châteaux. Il était enfermé là. Ensuite, il a été au château d'Henri IV. Hein. Puis ensuite, il était enfermé à Amboise, dans la Loire. C'est là que Léonard de Vinci a terminé ses jours, hein, à Amboise. Et il y avait là enterré 25 personnalités de sa famille. Il y rencontre là, à Amboise, Monseigneur Dupuc, le premier évêque d'Alger, qui a déclaré... qui était le restaurateur, n'est-ce pas, du culte de Saint-Augustin, plutôt, dans l'ancienne Hippone, à Annaba. Vous savez qu'Augustin, c'était un Algérien. Et l'émir Abdelkader a dit de Monseigneur Dupuc qu'il était le seul Français qui l'ait toujours compris. Et le 16 octobre 1852, Napoléon III vient en personne sortir Abdelkader de cette captivité indigne. Et qu'est-ce qu'il dit d'Abdelkader, Napoléon III? Il dit qu'il est le héros de la nationalité arabe. Alors, Abdelkader est un mystique. Il a été un grand défenseur des chrétiens aussi. Alors, libre de ses mouvements, maintenant, l'émir Abdelkader s'installe à Brousse, en Turquie. Il rédige là un ouvrage, non pas à l'adresse des politiciens et des militaires, mais à l'intention des savants et des intellectuels français. Il donne le titre « Note brève, destinée à ceux qui comprennent » pour attirer l'attention sur des problèmes essentiels. C'est un manifeste, en somme, que ce livre. L'auteur, Abdelkader, met toute son expérience au service d'un jugement sur l'état du monde et les relations entre l'islam et l'Occident. Alors, dans la forme, il nous montre qu'il a des connaissances historiques arabes profonde, l'histoire des peuples, réflexion sur les jeux d'échecs, etc. Puis il plaide avec un beau brio, un brio qui révèle qu'il a bien lu Aristote, Platon, Ptolémée, les philosophes de l'islam. Bien, il plaide pour un avenir où la science et la foi seraient mariées ensemble, où le développement puis la morale iraient de pair, où la matière et l'esprit entreraient ensemble pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et dans le fond, il écrit dans un style très arabe, on voit une pensée bien, bien nerveuse. Il est probable qu'en s'adressant aux Français de l'intelligentsia, Abdelkader, qui est au fait des grands courants intellectuels contemporains de son époque, il tient à y mettre une voix musulmane dans toutes ces controverses qui règnent en France. Lui, dont les gardiens de prison et geôliers en France avaient, pour instruction du ministère de la Justice, de veiller à ce qu'ils n'apprennent pas le français, bien, il raisonne et il argumente avec courtoisie. Il ne veut pas se plaindre ni se culpabiliser. Il aspire à l'oubli des affronts, au dialogue d'égal à égal et à l'encontre des théories racistes et génétiques qui affirme que les races naissent ignorantes ou géniales. Vous savez, il y a des gens qui prétendent ça. Il répond, lui, que la pauvreté n'est ni une honte, ni une tare irréversible. Alors, face à l'espèce d'ethnologie des colons, anglais, français, allemands, etc., qui professent que seuls les grands États-nations sont sujets de l'histoire et puis que les Arabes sont des instrus sur des terres qui avaient été laissées au 7e siècle, vacante par les peuples de l'Antiquité, au moment de la naissance de l'islam, là, il affirme, lui, son attachement à la culture classique, à la communauté d'origine des trois grands monothéismes, les juifs, les chrétiens et les musulmans. Il est accusé de fanatisme musulman, peut-être, mais il réplique que les qualités humaines n'appartiennent à aucun peuple en propre et que les défauts appartiennent à tous, c'est ce qu'il dit. Alors, face au matérialisme terrible qui sévit en Occident, il rappelle la primauté de l'esprit sur la vie matérielle. Et il prétend que le développement matériel, ça ne peut pas être une fin en soi. Et c'est là, dans son livre, le testament qu'il laisse. C'est l'opuscule, en somme, un petit livre, d'un homme qui est doué d'une vue mondialiste. C'est un homme universel. Il apporte à sa manière une grande contribution à l'édification d'un monde auquel tout le monde rêve, un monde pacifié. C'est une voix musulmane dans le grand concert des nations, dont la France constitue pour lui l'un des principaux phares, car il a une grande admiration pour la France, c'est curieux. Hein? Et Abdelkader, il retourne d'ailleurs en France en 1855. Alors là, il visite l'Opéra, il visite l'Imprimerie nationale, il visite la grande église Notre-Dame, où on vient de célébrer à la mémoire des trappistes qui ont été tués par les extrémistes musulmans d'Algérie, une cérémonie bouleversante qu'on a pu voir à la télévision. Le cardinal Lustigien était un à un les grands cierges qui représentaient ces pauvres trappistes qui ont été égorgés mardi dernier. Alors il va à l'église Notre-Dame, puis il va aussi à l'église de la Madeleine, la grande église de la Madeleine à Paris, où il s'arrête un long, long moment devant l'autel pour prier. Il fait surtout part à Napoléon III de ses préoccupations quant à l'avenir de l'islam. Et en effet, l'Angleterre, qui vient de s'accaparer là, du nord-ouest de l'Inde musulmane, puis de la Russie, et la Russie s'est emparée du Caucase, qui est musulman, bien, il demande d'intercéder auprès du tsar Alexandre II en faveur de Chamil, le grand leader religieux musulman du Caucase. Abdelkader, qui est un arabe d'Afrique du Nord, un maghrébin, doit s'installer finalement à Damas. À Damas, oui, où l'apôtre Saint Paul a été baptisé. Vous vous souvenez, Damas, où il s'est converti, hein? Il est tombé en bas de son cheval, là, et c'est cette grande conversion de Saint Paul. Mais c'est là qu'il va vivre. C'est la capitale de la Syrie. Et c'est dans cette mosquée, à Damas, qu'est enterré Saint Jean-Baptiste. De même que le fameux Saladin, hein, qui avait pris Jérusalem en 1187, hein, puis c'est lui qui a construit les murs, Saladin, qui a été un grand musulman aussi, un grand personnage. On a de la difficulté, nous, à aimer Saladin, puisqu'il a conquis Jérusalem. Mais ça demeure un homme intéressant, Saladin. Alors donc, il habite tout près de là. C'est là d'ailleurs qu'habitait, tout près de cette mosquée où sont les restes de Saint Jean-Baptiste, le grand mystique Ibn al-Arabi, dont il devient un ardent disciple. Alors, la grande rivalité franco-anglaise en Orient, au Moyen-Orient, se traduit sur le terrain là, par une exacerbation des tensions confessionnelles qui sont attisées de tous côtés. Alors, devant le danger d'un pogrom antichrétien, oui, on appelle ça un pogrom, c'est le mot qu'on attribue habituellement à ce que nous, catholiques, avons fait à l'égard des juifs, ou ce que les orthodoxes aussi ont fait à l'égard des juifs, n'est-ce pas? Un pogrom, mais il y avait des pogroms antichrétiens qui étaient ourdis par des Turcs et des consuls européens qui n'aimaient pas ce genre de chrétiens. Eh bien, Abdelkader, lui, il s'est porté sabre au clair, oui, le sabre à la main, à la tête d'une troupe d'Algériens, puis il a sauvé des milliers de vies chrétiennes au péril de sa propre vie. Voilà Abdelkader. Alors ce haut fait le propulse sur la scène internationale. Et là, la France lui décerne la Légion d'honneur, imaginez. Il reçoit la croix de Russie. Il reçoit la croix de Sardaigne. Il reçoit même une croix de Turquie, car il y avait beaucoup de chrétiens dans ce temps-là en Turquie. Il reçoit même l'ordre de Pie IX. Bien, oui. Et lui, quand il reçoit l'ordre de Pie IX, du pape Pie IX, il dit, ce grand musulman, « Je n'ai fait que mon devoir, conformément à la loi musulmane et aux prescriptions de l'humanité. » C'est ce qu'il répond à Napoléon III quand il a reçu cette décoration. Alors l'Empire turc-ottoman est plus que jamais détesté en Europe. Lorsque le collaborateur de Napoléon III, Ernest Laharan, publie La nouvelle question d'Orient, Empire d'Égypte et d'Arabie, reconstitution de la nationalité juive. Alors, il rêve de rétablir les Juifs en Palestine, déjà, vous voyez. Alors, la ruine de l'Empire turc est en marche. Et là, un État égyptien est vraiment établi. Un autre va être établi pour les Juifs, celui qui va créer tout ce trouble aujourd'hui. Et un royaume arabe aussi sous le sceptre d'Abdelkader, en alliance avec la France. Telle est l'idée maîtresse de la politique de l'empereur Napoléon III. Alors, sacré sultan des Arabes par la presse, Abdelkader oppose une fin de non-recevoir. Il rappelle qu'il n'a plus d'autre désir que de se consacrer à la prière et aux études religieuses. Il ne veut rien entendre d'autre. Et ces dernières années, l'émir Abdelkader va les vivre partagés entre l'étude du soufisme. C'est ce grand courant mystique de l'islam qui est né au 8e siècle, le soufisme, et qui est opposé au légalisme qui règne souvent dans l'islam, comme dans le judaïsme, et que nous avions nous-mêmes il n'y a pas si longtemps. Alors, ce soufisme met l'accent sur la religion intérieure, et c'est ça qu'il étudie. Et puis, il rédige de beaux écrits spirituels. Il fait un séjour d'un an et demi à la Mecque, et quelques voyages à Alexandrie, cette grande ville d'Égypte qui a été si importante dans l'histoire du monde. Ah, que l'on connaît mal Alexandrie. Et en 1869, il participe à l'inauguration du canal de Suez. L'année suivante, la France déclare la guerre à la Prusse, et là, des Algériens y combattent, tandis que la citoyenneté française n'est octroyée qu'aux seuls indigènes juifs, imaginez, et que la révolte des Kabyles est réprimée. Alors, la désintégration de l'Empire ottoman est irréversible. La Roumanie, la Serbie et la Bosnie en sont détachées. Chypre devient une possession anglaise. C'est les Anglais qui occupent l'Égypte en 1882, alors que la France annexe le sud algérien. Et loin de sa patrie, Abdelkader note, l'homme complet est celui qui s'est préoccupé également des affaires de ce monde et des espérances de l'autre. Et il meurt dans la nuit du 25 au 26 mai 1883. C'était l'anniversaire hier. Et une foule immense qui rassemble des dignitaires, des diplomates étrangers, le petit peuple chrétien, petit peuple musulman, tous ces gens l'accompagnent à sa dernière demeure, qui avoisine celle d'Ibn al-Arabi à Damas, près des restes de Saint-Paul. Ce grand musulman, qui est une sorte de saint à la façon de Jeanne d'Arc, mérite qu'on s'intéresse davantage aux musulmans sincères, aux musulmans vrais, aux musulmans qui ont du cœur. Je fais appel à eux pour qu'ils répondent aux appels des évêques du Soudan. Parce que l'évêque du Soudan perd ces chrétiens qui sont tués par des musulmans et qui meurent. Dans le Newsweek, on dit que près d'un million sont en grave danger de mort. Et comme dit l'évêque du lieu, Joseph Abangide, c'est peut-être parce que nous n'avons rien à offrir au monde, pas de pétrole, que le monde ne s'intéresse pas à nous. Et c'est terrible. Et tout ça se fait par un théologien. Oui, un théologien qui serait bien un terroriste en même temps, Hassan el-Tourabi, le président du mouvement islamique du Soudan, qui est l'homme fort là-bas. C'est la bête noire du monde musulman. On l'accuse de soutenir tous les mouvements terroristes et intégristes de l'Algérie à Israël. Quel étrange personnage qui a fait des études à la Sorbonne. Mais comment lutter contre ces aberrations? Terrible, terrible. C'est une islamisation forcée de la société du sud du Soudan qui s'accomplit depuis déjà plus de 10 ans. Et je fais appel à tous les musulmans qui pourraient m'entendre pour qu'ils se décident à faire quelque chose. Le Newsweek parlait de 5 millions de gens de tout âge menacés de mourir de faim au Soudan, à moins qu'une aide immédiate ne leur soit apportée. On décrivait ça en 1994. Bon, disons que les statistiques exagèrent. Disons qu'il n'y en a qu'1 million, mais c'est déjà énorme. Énorme. Et nous avons là des missionnaires québécois qui travaillent auprès de ces gens. Pour mieux comprendre finalement les rapports entre musulmans et chrétiens, peut-être pourrait-on lire le livre de Jean-René Milhaud, paru tout récemment chez Mediapol, « Musulmans et chrétiens, des frères ennemis, point d'interrogation ». C'est un tout petit livre qui n'a même pas 100 pages, ça a 60 pages. Alors ça peut se lire et c'est bien fait. On peut lire aussi « L'oraison du croyant, l'islam » de Roger Arnadez. C'est un ouvrage positif à l'égard de l'islam qui est paru chez Desclés et Novalis. « L'islam » par Roger Arnadez. Un livre délicat à recommander qui s'oppose beaucoup à certains aspects de l'islam d'extrême droite, c'est « L'islam en question » par un prêtre, Pierre-Marie Soubéran. Ces questions que l'on nous pose, hein, c'est un ouvrage important, mais délicat, publié aux éditions du Lion de Judas, c'est-à-dire aux éditions de la communauté des Béatitudes. Enfin, je reviens toujours sur le livre de l'émir Abdelkader, Aigri spirituel, paru au Seuil, il y a déjà plusieurs années, en 1982, n'est-ce pas? Et c'est un ouvrage, ça, d'environ 225 pages, savant, pas facile à lire. Alors, ayons au cœur les mêmes idées que notre pape Jean-Paul II, et essayons de comprendre. Jusqu'au fond de notre cœur, qu'il y a de musulmans profondément sincères, des musulmans avec lesquels nous pouvons marcher bras dessus, en nous disant l'un à l'autre que nous adorons Dieu, que nous aimons Dieu et que nous nous savons aimer de lui. Et c'est pour ça que nous devons nous aimer. Peut-être ainsi, les extrémistes musulmans disparaîtront-ils petit à petit, et prions profondément pour ceux qui ont massacré les 7 moines trappistes. Prions pour nos ennemis comme Jésus nous le demande.